Bien, donc le consortium MASA. Le consortium MASA, il est né il y a 9 ans, en fait, sur une initiative de Pierre Rouillard, qui était alors directeur de la Maison et de l'Archéologie de Nanterre, devenu depuis la MSH Monde, et qui a initié ce consortium auprès de, au moment où Humanum, la très grande infrastructure de recherche Humanum pour les humanités numériques, crée des consortiums de recherche, l'a initié autour de la question des archives, des archéologues, des archives de l'archéologie et des archéologues. Alors on va voir ce que ça recouvre. Ce consortium, alors en fait, Pierre est parti en retraite au moment où il a été créé, donc c'est finalement Frédéric Hurlet qui lui a succédé à la direction de la MAE, qui l'a dirigé pendant, enfin qui l'a coordonné pendant 4 ans. Et Humanum avait monté dès le début un schéma pour ces consortiums avec des labellisations par la TGIR pour 4 ans, puis renouvelable une fois, à nouveau 4 ans, et puis encore une fois, mais seulement pour 2 ans. Et on est dans cette période-là actuellement. Vous allez comprendre les enjeux que cela représente maintenant. Pour nous, on est dans cette période de ces 2 dernières années, puisque enfin, on est même au milieu de ces 2 dernières années. Le consortium a effectivement 9 ans. Dans la première phase, alors, vous voyez le réseau des partenaires. Il a très peu changé le noyau dur entre la première période de 4 ans et la seconde. Il est composé pour beaucoup de maisons des sciences de l'homme. Ça ne veut pas dire que c'est restreint, que le consortium est restreint à ses partenaires. Ça veut dire que ce sont ses partenaires qui ont pris en main l'initiative initiale et qui l'ont consolidée, mais toujours au service de l'ensemble de la communauté et pour partager pour l'ensemble de la communauté archéologique. Alors les partenaires, vous voyez donc la MSH Monde où MASA est né, avec à proximité le musée de l'archéologie de Saint-Germain-en-Laye, la MRSH à Caen, Maison des sciences de l'homme de Caen, la MSH Val-de-Loire à Tours, la MOM, Maison de l'Orient de la Méditerranée à Lyon, et la MMSH à Aix en Provence. Et puis, il y avait également, dès le début, le réseau Frantic, que vous connaissez probablement, donc le réseau Frantic qui est déjà, lui, un réseau beaucoup plus dense que celui-ci, d'ailleurs, hein, en particulier, pour ce qui nous intéresse dans MASA, sur la question, et on va avoir l'occasion d'y revenir, des vocabulaires de l'archéologie. Se sont ajoutés ensuite la MICHA, qui est la Maison des sciences de l'homme de Strasbourg, et puis, au moment de ce rechangement, l'INRAP, qui était un partenaire qui nous paraissait incontournable, bien sûr, quand on parle de données archéologiques. Là encore, ça ne veut pas dire que c'est exclusif des autres, et j'insiste là-dessus, mais vraiment, ce noyau de partenaires qui a travaillé, c'est ce noyau de partenaires qui a travaillé à la constitution et à la construction du consortium. Pendant les 4 premières années, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé à partir des corpus, des jeux de données de chacun de ses partenaires pour construire ce qu'on appelle des preuves de concept, c'est-à-dire en fait des exemples ou des expérimentations et amener des lots d'archives ou des lots de données archéologiques vers leur pérennisation au format numérique, avec tout ce que cela entraîne derrière. Donc on a eu besoin de mobiliser un certain nombre d'outils, et ces terrains d'études, en quelque sorte, ces cas d'études, ont permis de tester des choses, de mettre en place un certain nombre d'outils, et voilà. Dans la deuxième période de 4 ans, on a consolidé, pour le coup, la palette d'outils, la boîte à outils de MASA, pour arriver à ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Et dans ce deuxième temps, cette consolidation, il ne s'agissait plus de travailler vraiment uniquement sur ces jeux de données, mais de les valider, de valider les processus qui permettent de les traiter, de mettre en place les bonnes pratiques qui nous paraissent être à retenir pour pouvoir arriver à cela, à ce partage de données. Et dans la période où on est maintenant, eh bien, en gros, l'enjeu, c'est d'élargir cela à tout autre jeu de données et à l'ensemble de la communauté. Donc d'offrir un certain nombre de services. Alors ce consortium, dans Humanum, il est lié à d'autres. Enfin, il est lié. Il fait partie d'un ensemble de 8 consortiums. Ça, c'est la configuration actuelle des consortiums d'Humanum. Vous en connaissez peut-être pour peut-être d'autres. Il y en a un sur les corpus d'auteurs, cahiers. Il y en a un sur les archives des ethnologues. Un sur les corpus linguistiques. Un sur les données 3D pour l'ensemble des SHS. Un sur des données de géographie, de cartes et d'images. Imageo ici. Et COSME sur les sources médiévales. Paris Time Machine, qui est le plus récent sur un projet centré sur Paris et les outils des projets Time Machine que vous connaissez peut-être, et puis MASA. Ça ne veut pas dire que ces 8 consortiums, c'est un périmètre, peut-être Nicolas en reparlera, que c'est un périmètre figé, puisque ces consortiums ont une durée de vie potentiellement limité. Alors je dis potentiellement parce qu'on va voir que les questions se posent de l'avenir de certains nombres de ces premiers consortiums qui ont vu le jour il y a donc entre 9 et 10 ans. Les premiers ont 10 ans cette année. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, en s'inscrivant dans ce dispositif, vous voyez qu'il y a des entrées qui sont plutôt disciplinaires, d'autres plutôt autour d'objets numériques. Ou d'objets de la recherche en SHS. En s'inscrivant dans ce périmètre-là, ça a permis, ce qu'Humanum a permis, c'est un échange entre ces consortiums. Donc il y a un travail interconsortium qui permet dans certains cas des partages d'outils, qui permet également des partages de bonnes pratiques, de méthodes, de pas seulement d'outils du point de vue technique, mais également de méthodes ou de réflexions sur des process, sur certaines questions d'archivage ou de partage de données, selon la nature des données elles-mêmes. Et ce travail interconsortium est extrêmement enrichissant pour tout le monde et permet d'envisager des choses, y compris en termes de perspectives pour l'avenir. Alors, la gouvernance de MASA, très rapidement, pour vous donner un peu une idée de comment fonctionne ce consortium, le pilotage se fait, il est passé de Nanterre à Tours avec la Maison des sciences de l'Homme Val-de-Loire. Il est adossé d'un côté, bien sûr, à la TJIR Humanum. Ça, c'est important, puis c'est la TJIR qui labellise les consortiums, hein, et c'est également la TJIR qui donne des fonds à ces consortiums, hein, avec un travail d'évaluation annuelle, et en particulier au moment des renouvellements, mais d'évaluation annuelle tout de même, du conseil scientifique de la TJIR. Donc ça, c'est vraiment un travail conséquent et qui nous envoie un retour important sur ce que l'on fait. Et puis de l'autre côté également, puisque je vous l'ai dit, MASA en particulier est fondée sur un noyau dur de Maison des sciences de l'homme et donc sur le réseau national des MSH. Ensuite, on a un bureau qui est constitué des responsables de groupes de travail, vous allez le voir ensuite, un comité de pilotage avec l'ensemble des partenaires, un comité scientifique qui est en cours de constitution avec des représentants de la communauté archéologique, donc d'un point de vue institutionnel et pour être le plus large possible. Et puis une assemblée générale qui comprend tous ceux qui veulent bien nous rejoindre, donc dont vous faites partie aujourd'hui. L'idée originale, je reviens un peu en arrière, et donc là, ceux qui connaissent bien MASA ont déjà vu ça à plusieurs reprises, c'est quelque chose qu'on a quasiment depuis le tout début de MASA. L'idée originale repose sur un constat. Le constat qu'on a une accumulation d'archives, ça c'est pas spécial à l'archéologie, une volonté de structurer et de publier ces données. Alors on pourrait discuter, comme c'est souvent le cas, mais c'est pas l'objet ici du terme volonté, parce qu'on sait très bien qu'il y a aussi des réticences et que ça va avec et que ça fait partie du débat. Une multiplication des bases de données, une hétérogénéité à la fois des données et des formats de données. C'est ce que représente le schéma à côté. On a plein de systèmes de données différents, de systèmes d'information différents, tant dans leur format que dans la nature des informations qu'elles contiennent. et une nécessité de mettre en place des bonnes pratiques ben, pour pouvoir permettre à tout ça de communiquer. Donc la question qui se pose, c'est quel est ce que l'on va mettre au centre pour permettre à ces systèmes de communiquer entre eux. Donc ça passe par des questions de métadonnées normalisées, d'archivage pérenne, de mise en ligne de données, de vocabulaire standardisé, normalisé, d'interopérabilité des données, et puis d'alimentation de plateformes plus largement qui permettent de retrouver ces données ensuite. Alors je ne vais pas faire durer le suspense. Ce que l'on a mis au centre de cette hétérogénéité de systèmes d'information pour les faire dialoguer entre eux, ce que l'on a mis au centre, c'est en fait ce qu'on appelle une ontologie de domaine, c'est le CIDOC CRM, sur lequel on aura l'occasion de rediscuter, qui est une ontologie constituée initialement par l'ICOM, le consortium international des musées, pour les données patrimoniales, pour les données du patrimoine culturel. Cette ontologie de domaine, on va l'utiliser comme un pivot, avec dans l'idée que l'on ne changera jamais, jamais les systèmes d'information originaux. C'est-à-dire qu'on va chercher à les faire dialoguer entre eux sans jamais avoir à les modifier. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à un système de s'adapter pour pouvoir répondre à quelque chose de qui permette à tout le monde de communiquer, ni... évidemment, encore moins de constituer une méga base de données qui serait un espèce de métasystème dans lequel on intégrerait l'ensemble des données. C'est absolument pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de constituer quelque chose qui serve de pivot entre ces différents systèmes sans les modifier pour conserver à chacun à la fois les particularités, l'originalité pour lesquelles les systèmes individuels ont été construits et à la fois. Les habitudes de travail qui font partie de ce qui est aussi nécessaire de respecter si on ne veut pas chambouler la poursuite du travail de chacun. Donc ça passe par un certain nombre de besoins sur lesquels je vais revenir après, mais donc ce référentiel, des référentiels et une ontologie, des descriptions uniformes de données donc, et de métadonnées, des processus d'appariement de ces sources de données avec cette ontologie pour pouvoir les faire communiquer, et une application unique, un point d'entrée unique qui peut prendre différentes formes pour pouvoir accéder à et interroger ces sources de données hétérogènes. Donc là, il y a les référentiels, je vais y revenir ensuite. Alors, pour cela, ça nous a amené dans Maza à travailler sur deux grands axes. Pardon. Le premier... et autour des questions d'archivage. Donc je vous l'ai dit, l'idée initiale, c'était les archives de l'archéologie et les archives des archéologues. Parce qu'en fait, pourquoi Maza, c'est archives des archéologues et des sites archéologiques, c'est bien ce que cela signifie. Parce que les archives de l'archéologie, c'est effectivement les archives de fouilles, ce que l'on produit lors des opérations de terrain. Et ces archives, elles ont vocation à être pérennisées, sauvegardées, et elles font partie... de ce que l'on peut qualifier de données primaires en archéologie. Donc là, il y a un élément fort et essentiel pour la discipline elle-même. Mais il y a aussi des archives des archéologues qui sont en fait des lots constitués par ce qu'un archéologue a produit à un moment donné et l'ensemble de ce qu'il a accumulé comme recherche, qui comprennent parfois, et même le plus souvent, une partie de ces archives de fouilles, parfois sur plusieurs sites, mais ces archives peuvent être organisées soit par comme entrée principale autour d'un site, d'un lieu, soit autour d'une personne, parce que c'est elle qui aura fouillé. Et en fait, on peut avoir, pour une même personne, alors, si elle travaille tout le temps sur le même site, et ce qui est souvent le cas, on aura un ensemble à peu près homogène, mais on a aussi des archéologues qui ont travaillé sur plusieurs sites et qui cumulent dans leurs archives des archives qui proviennent de différents sites, qu'il faut parfois croiser avec d'autres, quand d'autres archéologues ont travaillé sur le même site, etc. Et ces archives demandent de respecter un certain nombre de bonnes pratiques qui sont tout simplement des pratiques d'archivage. Donc c'est essentiellement sur ces questions-là que cet axe s'est orienté et puis s'y est également ajouté assez rapidement la question, parce que ça c'est la question qui se pose pour ce qu'on peut appeler le passif, mais la question des données que l'on crée maintenant, qui pour l'essentiel sont directement nativement numériques, et donc de plans de gestion de ces données dès le début, en amont, pour pouvoir éviter de refaire ce travail, j'en sais rien, moi, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, a posteriori en tout cas. Le deuxième axe est autour de la question de l'interopérabilité, qui est une question clé, puisque justement, si on veut que si on veut interroger et croiser ces systèmes d'information, il faut qu'on puisse résoudre, enfin en tout cas travailler à les rendre interopérables. C'est passé, ça nous a amené très rapidement à travailler autour de ce qu'on appelle le web des données, c'est-à-dire comment publier nos jeux de données afin qu'ils alimentent ce fameux web des données, donc cette espèce de nuage de silos de données interconnectés, comme un mégagraphe, vous en verrez une image tout à l'heure, et comment ces données archéologiques vont pouvoir intégrer ce web des données. L'objectif du web des données en soi, il est pensé pour que les machines, les ordinateurs, discutent, travaillent entre elles, soient connectées et puissent interconnecter ces jeux de données. Et nous, on a mis comme priorité pour convaincre de la nécessité de cette interopérabilité de créer, d'offrir une interface homme-machine qui permette aux humains, à nos collègues archéologues, à tous autant qu'on est, de pouvoir accéder également à ces jeux de données via ce web des données. Et donc cela nous a amené et nous a conduit à ce que maintenant, mais qui est relativement récent, on appelle les principes FAIR. Donc vous avez peut-être déjà entendu parler de ces principes FAIR. C'est maintenant devenu, ces principes FAIR sont devenus quasiment la règle d'or de tous ceux qui travaillent sur les données numériques, et pas seulement dans nos domaines en sciences humaines et sociales, mais d'une manière très générale, et sur les données de la recherche en particulier. Ces principes signifient que les données doivent être, alors vous les voyez, hein, findable, accessible, interoperable, reusable, ça a été traduit en français par facile à trouver, accessible, interopérable et réutilisable. Facile à trouver, ça veut dire que nos données, elles doivent être identifiées, repérées. Donc on doit avoir des métadonnées qui les décrivent et qui permettent de dire ce qu'il y a dedans, alors avec des identifiants, avec un certain nombre de contraintes, comme des identifiants pérennes, pour qu'on puisse les repérer, les retrouver tout le temps. Accessible, eh bien, ça veut dire que pour qu'elles soient accessibles, il faut qu'elles respectent un certain nombre de standards qui permettent de les rendre ouvertes et de les avoir accessibles, tout simplement, publiées sur le web. Donc ça, c'est un prérequis qui est important, je vais y revenir tout à l'heure. Interopérable, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'elles utilisent là aussi des standards dans leur vocabulaire qui permettent d'aller vers l'interopérabilité entre ces différents jeux de données. Et puis réutilisable, eh bien, pour qu'elle soit réutilisable, ça passe par des questions de licence sur les modalités d'accès à ces données et d'usage, d'utilisation de ces données, mais aussi de respecter un certain nombre de standards qui vont permettre de s'emparer de ces données et éventuellement d'en faire tout autre chose. Donc ces principes FAIR, encore une fois, j'insiste dessus, vous les retrouverez partout maintenant, y compris dans toute la sphère et toutes les recommandations autour de la science ouverte. Et on commence à trouver également, en particulier au niveau international, des outils d'évaluation de jeux de données pour savoir s'ils respectent ou non ces principes FAIR. Enfin, d'évaluer comment les jeux de données sont en adéquation ou pas avec ces principes. Je l'ai évoqué tout à l'heure, on a été amené donc à préparer à travailler sur la question d'un plan de gestion de données. Alors là, c'est un travail qui a été fait en se basant sur une initiative de l'INRAP qui avait déjà un temps d'avance sur cette question-là, et qui a permis pour les données nativement numériques, pour les projets qui naissent, de préparer un plan de gestion de données pour l'archéologie que vous trouverez, il est déposé dans Opidor, une plateforme en ligne qui est hébergée par l'INIST pour le CNRS, mais dans lequel vous trouverez ce plan de gestion de données en français, en anglais, et qui permet, alors il est possible qu'il évolue, hein, qu'il y ait d'autres versions, mais qui permet en gros d'avoir les premières préconisations, les préconisations en termes de format, d'organisation de ces données, de gestion des données, comme son nom l'indique, pour un projet qui démarrerait. Alors c'est nécessaire pour, dans le monde de la recherche pour répondre à certains appels à projets où on nous demande maintenant d'avoir un plan de gestion de données, ce qui est plutôt une bonne chose, c'est-à-dire que nos financeurs, et ça va l'être de plus en plus, s'inquiètent quand ils nous financent pour des projets, de la manière dont on va gérer les données qu'on produit. C'est pas complètement stupide quand on travaille avec de l'argent public de poser ce type de questions. Et donc c'est plutôt donc cet outil, ce plan de gestion de données, a vocation à pouvoir vous aider dans ce domaine-là. Et puis j'ai repris ensuite quelques exemples justement sur les principes FAIR, de ce que l'on a abordé en fait dans MASA dès la première période avec les outils que l'on a mobilisés ou que l'on a créés pour répondre à chacune de ces étapes. Alors pour le F, eh bien des identifiants pérennes, donc avec des numéros T, des numéros ARC ou autres maintenant, des OI ou autres. La mise en place de métadonnées en EAD, je passe sur la technique, hein, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est un encodage XML pour les données d'archives. L'exposition des données avec des outils qui existent dans Humanum, comme Nakala ou le signalement dans Isidore. Pour l'accessibilité, eh bien, je vous l'ai dit, là on peut avoir plein de plateformes différentes. Le point d'entrée fondamental, c'est qu'on ait des données à un format accessible en ligne. Donc, là, il y a des exemples de copies d'écran de jeux de données différents. La granularité de chacun de ces jeux de données en archéologie peut être très différente. Ça peut être des données de fouilles, des données stratigraphiques de fouilles. Ça peut être des données de collection. Il y en a sur de l'épigraphie, il peut y en avoir sur des types d'objets, il peut y en avoir sur différentes approches chronologiques ou thématiques ou chronothématiques croisées, vous le savez tous. Mais l'essentiel, c'est que même si c'est un corpus de sites, un inventaire de sites, l'essentiel est que ces données soient accessibles en ligne, donc ouvertes. Pour l'interopérabilité, je vous l'ai dit, la clé essentielle, c'est le croisement l'utilisation de vocabulaire normalisé. Et donc pour cela, on travaille avec Frantic sur les Pactols. Enfin, on soutient plutôt le travail de Frantic sur les Pactols. C'est bien l'équipe de Frantic qui travaille, qui utilise le gestionnaire de Thesaurus OpenTeso. Là encore, je ne rentre pas dans la technique et on aura l'occasion de rediscuter de ces outils cet après-midi. Mais l'objectif est bien d'amener, encore une fois, sans forcément modifier fondamentalement les systèmes d'origine, mais d'amener ces systèmes d'origine à être alignés avec des vocabulaires normalisés pour pouvoir communiquer entre eux sur une même base. Donc avec les outils qui permettent de le faire. Et puis la réutilisation, ça passe par, par exemple, ici, l'accès à des... Alors je passe sur les questions je passe rapidement sur les questions de licence d'utilisation des données, mais en tout cas, une plateforme qui va permettre d'accéder à ces jeux de données, de les interroger, et surtout de pouvoir aller les chercher et éventuellement les réutiliser à autre chose. Dans l'élan qu'on avait, ça nous a également amené à travailler sur les questions de la publication des données archéologiques. Et en fait, on a un groupe de travail, je vais vous les présenter ensuite, qui a travaillé à partir des travaux de Gardin. Les archéologues, je pense, connaissent Gardin, qui, au moins pour son ouvrage le plus célèbre, qui est Pour une archéologie théorique, a proposé un format de publication de données qui s'appelle le logicisme et qui permet de faire état par des successions, des enchaînements de propositions, du raisonnement et des inférences entre chaque étape de ce raisonnement qui conduit à une vision synthétique des résultats. Et ce travail, qui a longtemps été mené de manière théorique, qui a été expérimenté dans des formats papier d'abord, ce qui n'était pas tout à fait simple, puis numérique, mais avec moins de moyens, enfin techniques, que l'on en a maintenant, a vu le jour vraiment à partir de quelques publications monographiques sous la direction, pour l'essentiel, de Valentine Roux, et en particulier d'une revue, The Archaeotech Journal, ce qui est une revue sur l'archéologie des techniques, en quelque sorte, et qui a publié et qui publie toujours des articles dans ce format logiciste. Donc qui, au lieu d'avoir qui permet une lecture d'une part synthétique et rapide, mais à double entrée, soit par une synthèse et qui permet de remonter le chemin du raisonnement qui a permis d'aboutir à cette synthèse en allant vers les propositions initiales les plus précises, soit dans l'autre sens, en partant de la description la plus détaillée et de revenir vers cette synthèse. Donc ces doubles entrées de lecture qui permettent des lectures rapides ont été appliquées à l'échelle d'une monographie de fouilles, celle d'un centre paroissial, qui est cette fouille de Rigny-UC qui est présentée ici, qui a été publiée aux presses universitaires de Caen, en format entièrement électronique, selon ces principes logicistes. Ce que l'on a fait dans MASA, c'est qu'en dehors de l'accompagnement au format de cette publication, c'est également de produire un outil qui permet d'aider à l'écriture à ce format-là, puisque c'est des modalités d'écriture différentes qui passent par des diagrammes logicistes qui permettent de présenter les choses. Alors là, c'est absolument illisible, mais qui vous montre différents niveaux de propositions qui s'enchaînent les unes avec les autres. Et donc, en fait, l'outil Logicist Writer permet d'aider à cette écriture logiciste en partant directement de la construction d'un diagramme. Donc ça, c'est un outil qui est disponible maintenant hébergé par Humanum. Les groupes de travail dont je vous ai parlé. Donc je vous les affiche là, pas tant pour rentrer dans le détail de chacun d'eux, mais pour que vous ayez aussi les noms des personnes référentes en face qui sont responsables de ces groupes de travail. Il y en a une dizaine, et qui vous permettent de les contacter directement et de savoir à qui vous adressez si vous souhaitez travailler sur telle ou telle question. Donc vous les retrouvez: plan de gestion de données, bonne pratique d'archivage, interopérabilité, publication logiciste, les Pactols, OpenTeso, Archeogis, dont je n'ai pas encore parlé, un groupe spécifique, je vais y revenir, sur la question d'un livre blanc et des bonnes pratiques, un autre également spécifique sur l'offre de formation, et un sur les questions internationales, sur lesquelles je terminerai tout à l'heure. Ces groupes de travail, on les retrouve réorganisés dans les deux axes que je donnais, l'archivage d'un côté, l'interopérabilité, le web des données de l'autre. Autour aussi de choses plus transversales qui sont cette fameuse boîte à outils MASA, et puis des actions de formation et de diffusion avec l'offre de formation et un certain nombre de canaux de diffusion, dont un carnet de recherche hypothèse, que vous avez peut-être déjà consulté et qui regroupe l'ensemble des informations concernant le consortium, sur lequel vous retrouvez l'ensemble des présentations lorsqu'on en fait. Celle-ci sera après les journées. Vous y retrouverez l'ensemble des choses, y compris des publications quand il y en a, ou au moins des liens vers les publications quand elles existent. Et évidemment, l'accès aux jeux de données qui sont ouverts, l'accès aux outils, etc. Alors cette boîte à outils, je ne vais pas la détailler là, juste pour vous dire qu'on a utilisé des outils existants, vous allez le voir juste après, et puis on a aussi senti le besoin, enfin en tout cas, développer un certain nombre de choses quand on ne trouvait pas parmi les outils existants ce qu'il convenait à ce que l'on souhaitait faire. Donc un outil sur l'alignement vers des vocabulaires normalisés, Open Termline, qui est, soyons honnêtes, en stand-by pour l'instant. Un outil qui n'a pas été développé par le consortium, qui existait au préalable, mais dont le consortium soutient la poursuite et le développement, sont les Pactols, ces vocabulaires de l'archéologie. J'y reviendrai tout à l'heure. OpenTeso, de la même manière, qui est un gestionnaire de thésaurus créé initialement pour les Pactols et qui a pris une ampleur bien plus large maintenant. OpenArchaeo, qui est une plateforme dont je vais vous reparler, qui est cette fameuse plateforme qui permet d'interroger les données interopérables à partir du moment où on va les apparier avec cette ontologie du CIDOC CRM. Logisys Writer, dont j'ai dit un mot à l'instant, et puis un tout petit outil, mais loin d'être négligeable, qui permet de publier tout simplement des guides de bonne pratique les guides de bonne pratique, je vais y revenir également. Ces outils, comme je vous l'ai dit, dans l'histoire du consortium, on les a développés un peu au fur et à mesure en fonction des besoins, et ça nous a conduit, finalement, tout en utilisant d'autres qui existaient, à présenter maintenant les choses sous cette forme-là, qui est une sorte d'écosystème numérique du consortium, dans lequel on va retrouver, enfin que l'on a organisé, centré sur ces fameux principes FAIR, selon le cycle de vie des données. Donc on va commencer par la planification, la création, le traitement, l'analyse, la conservation, le partage, la réutilisation. Et en fait, selon ce cycle de vie des données, eh bien on va à chaque fois retrouver un certain nombre, mobiliser un certain nombre d'outils. Ici, pour le plan de gestion de données, on retrouve Opidor que j'ai cité tout à l'heure, là, Archeo pour les identifiants pérennes, là, OpenRefine, qui est un outil générique que l'on utilise pour le traitement des données, etc. etc. Le CIDOC CRM va apparaître à cet endroit-là avec des outils qui permettent de travailler, qui sont nécessaires pour travailler avec cette ontologie, et des référentiels. Et puis, à l'intérieur du cercle plus foncé, les outils qu'on a développés et qui viennent s'organiser autour de ce cycle de vie des données également, que l'on a développé ou soutenu, comme je viens de vous les présenter, dans cette boîte à outils MASA. Le tout centré sur ces principes FAIR, puisque c'est vraiment l'objectif que l'on se fixe, c'est d'amener nos corpus de données, mais quand je dis nous, c'est nous collectivement, c'est pas ceux du consortium plus que des partenaires du consortium plus que les autres, c'est d'amener les corpus de données de la communauté archéologique française vers le respect de ces principes FAIR et vers le partage de ces données au bénéfice de l'ensemble. Donc voilà cette interface, cet écosystème, pardon. Vous le retrouverez dans les présentations et sur le site du consortium. Ces principes FAIR, ils sont déclinés par un guide que vous retrouverez également en accès depuis le site, qui est en fait la traduction d'un guide qui a été fait dans un projet européen, donc qui existe maintenant en plusieurs langues et auquel on a contribué à sa traduction en français. Alors, aller vers l'interopérabilité des données, je vous l'ai dit, la première étape, ça passe par des référentiels et du traitement de vocabulaire, de vocabulaire standardisé. Pour cela, on a utilisé des outils, ce fameux gestionnaire de Thésaurus, OpenTheso. Alors, si vous voulez tout savoir sur OpenTheso, Milad Rousset est là, c'est lui qui le développe, et donc il n'y a pas de problème. Et les vocabulaires PACTOLS, et là, Véronique et Blandine sont là aussi pour vous répondre, qui sont en... Alors, je crois que j'ai une diapo plus loin, j'y reviendrai, mais qui sont en voie de transformation depuis maintenant un certain temps, de vocabulaire initialement créé pour la documentation archéologique vers un vocabulaire de la discipline en interface avec un projet européen, un projet international qui s'appelle le Backbone Thesaurus, qui est ce qu'on pourrait qualifier d'un méta-thesaurus et qui impose une refonte, une restructuration importante des thesaurus pactols, mais qui permet aussi de leur donner une ouverture et une ampleur beaucoup plus large. Et cette diapo signifie, en fait, ce que je voulais signifier ici, c'est que cet élargissement nous conduit à travailler avec d'autres, à élargir, nous a conduit vraiment à élargir, et cette réflexion a été menée conjointement autour des PACTOLS et dans Frantic, à élargir ces vocabulaires initiaux vraiment à un vocabulaire de discipline, voire plus largement, il en sera peut-être question à plus largement qu'à la stricte archéologie, parce que ça recouvre des champs qui sont un peu plus larges, et également... les outils sont mobilisés, vous le voyez ici, par exemple, dans le cadre du traitement des données numériques du chantier Notre-Dame. Donc c'est un exemple, le chantier Notre-Dame, il y a de l'archéologie, mais il n'y a pas que de l'archéologie. Les données numériques autour de ce chantier, elles passent par la 3D, et le consortium 3D et d'Humanum est également très impliqué dedans. Et en collaboration avec eux et avec Humanum, on coopère au sein de ce chantier avec l'utilisation d'OpenTESO, par exemple, mais aussi avec d'autres types de moyens et d'outils développés qui servent à la gestion de ces données numériques, des données numériques de ce chantier. Donc on voit là que ce que l'on fait pour la communauté archéologique ouvre les portes vers des ensembles plus larges qui sont autour de données patrimoniales, toujours, mais avec des besoins. Ce que l'on développe, et y compris les outils que l'on a développés, ne sont pas uniquement réservés à l'archéologie, ils peuvent servir à d'autres. Alors, une fois qu'on a traité la question des vocabulaires et de la standardisation de ces vocabulaires, alors quand je dis ça, on a l'impression que c'est facile. On a résolu le problème et on passe à l'étape suivante. Voilà, c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. En tout cas, c'est pas tout à fait aussi simple. Mais une fois qu'on a fait ça, l'étape suivante, c'est de permettre à nos jeux de données fondés sur ces standards, de pouvoir être apparié, le terme anglais c'est mapping, mais en français la meilleure traduction c'est appariement, donc être apparié avec une ontologie. Et pour faire ce travail, il faut passer par des schémas un peu conceptuels. Donc là il est parfaitement illisible, donc je peux vous raconter ce que je veux. Mais l'objet n'est pas de rentrer dans le détail, c'est simplement pour vous montrer qu'en fait l'idée c'est d'avoir, je vais y arriver, quand j'aurai fini je la maîtriserai complètement la télécommande. L'idée, c'est d'avoir ce que vous voyez en couleur, les entités repérées dans l'ontologie et la nature et la connexion des liens avec les entités de nos systèmes d'information. Donc, à partir de là, et ça, c'est un travail dont vous pourrez discuter avec Olivier Marlet qui a conçu, et puis avec Florian qui travaille dessus maintenant, sur ce modèle qu'on appelle modèle générique. Qui permet en fait de retrouver des classes d'entités que l'on va retrouver dans tous les systèmes d'information hétérogènes que je vous présentais au départ. Parce que même si on a des systèmes d'information différents, même si on travaille à des échelles différentes, même si on utilise des vocabulaires différents parfois pour décrire un peu la même chose, on parle toujours d'archéologie et on retrouve un certain nombre d'objets, d'entités que l'on peut aligner avec les mêmes entités de ce modèle générique, de cette ontologie. Et c'est par ce biais-là que l'on va faire la connexion entre nos systèmes différents et un niveau plus générique qui permettra de les faire communiquer. Donc, pour pouvoir arriver à ça, il faut un schéma de cet ordre-là, qui est ce schéma d'appariement entre les différents systèmes. Donc, il est devenu générique parce qu'en fait, à partir de là, à partir de l'ontologie, on va pouvoir l'appliquer à différents systèmes, à la structure de systèmes, même s'ils sont organisés de manière différente. Une fois que l'on a fait ça, il y a des outils. Alors là, c'est un peu plus technique. Mais il y a deux types d'outils, soit l'un on top qui permet de travailler avec des bases de données, soit l'autre, 3M, qui permet de travailler avec des corpus en XML, qui vont permettre de faire ce travail d'appariement et de construction de ces relations, en fait, et de transformation de ce qui est dans nos bases de données, dans ce qu'on appelle des triplés RDF, pour les interroger via l'ontologie. On en arrive à une interface qui va permettre d'interroger ces différents corpus, ces différents jeux de données, chacun dans un ou des triple sorts différents. Alors là, je passe encore sur les aspects techniques. C'est loin d'être simple aussi et loin d'être résolu. Mais on travaille avec des équipes d'informatique également et des développeurs en informatique spécialisés dans le web sémantique. Parce que ces questions, quand on travaille sur ces questions-là, on est aussi amené à poser des questions qui sont des questions non résolues en informatique. Et du coup, on a une interdisciplinarité dans la recherche avec les informaticiens qui nous permet, qui les intéresse et qui nous permet d'être au plus près de ce qui se développe. L'objectif pour nous, c'est d'avoir une interface qui va permettre d'accéder à différents jeux de données. Alors là, ils n'y sont pas tous, puisque c'est actualisé, que ma copie d'écran est un petit peu ancienne, mais ce n'est pas très grave. Et qui va nous permettre de sélectionner le ou les jeux de données dans lesquels on veut aller faire des requêtes. Et puis, eh bien, si on veut interroger ces jeux de données dans ces fameux formats de triple RDF, donc de graphes des données et de web sémantique, il faut taper des requêtes de cet ordre-là, dans un langage barbare qui s'appelle le Sparkle, que peu d'entre nous maîtrisent et n'ont envie de maîtriser. Et on a, la plupart des archéologues ont autre chose à faire que d'apprendre à taper une requête en Sparkle. Et donc on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un moyen de donner accès à ces jeux de données via ce biais-là, mais via une interface qui permette de ne pas avoir à saisir cette, ce type de requête. Et donc on a fait développer un module d'interrogation via ce système graphique que vous voyez ici, qui va permettre de construire des requêtes en fonction globalement du schéma initial que vous avez vu avant, mais ça n'impose pas de le connaître complètement, parce que c'est des requêtes, c'est pas du langage naturel, mais c'est des requêtes assez évidentes pour un archéologue, de dire je vais chercher les tombes qui sont dans un site fouillé par tel archéologue, enfin des requêtes de cet ordre-là. Donc ça, ça se construit assez bien, et on voit bien le type d'objet que l'on peut manipuler. Ce module, il a été développé par la société Sparna, et il s'appelle Sparnatural. Et il est réutilisable et réutilisé d'ailleurs maintenant dans d'autres domaines et pour d'autres questions. Donc l'objectif de ce module, c'est qu'en fait, on va avoir une requête construite graphiquement de cette manière-là. Le module va la traduire à partir de là et à partir du modèle générique qui est derrière lui-même sous ce format-là en requête Sparkle. Et donc, on va avoir une interrogation qui se fait dans nos systèmes d'information et qui va renvoyer ici la liste des individus trouvés dans chacun de ces systèmes d'information. Et à partir de ces liens ici, on va pouvoir directement ouvrir la fiche du système d'information concerné là où il est, sans que jamais on ne l'ait modifié ni qu'on en ait modifié la structure. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que ça ne change rien aux habitudes de travail des gens qui utilisent ici Arsol, mais ça pourrait être un autre système d'information à un autre endroit, peu importe, à condition qu'il soit ouvert et disponible en ligne. Je vous ai parlé du web des données. L'objectif derrière, ce que l'on se fixe avec ça, ou l'ambition plutôt que l'objectif, l'ambition que l'on a derrière, c'est de contribuer à alimenter ce qui s'appelle le Link Open Data, qui est ce nuage de jeux de données dans le web des données, ou encore web sémantique, et qui va dans lequel ici, alors là c'est encore parfaitement illisible, vous voyez que c'est un graphe malgré tout, que chacun de ces jeux de données sont connectés, sont reliés, et les couleurs correspondent à des champs, des grands champs thématiques. Et il y en a un qu'on voit à peine, qui correspond aux données patrimoniales. Au sein des données patrimoniales, il y a un tout petit peu d'archéologie. Notre objectif est de contribuer à enrichir le web des données par là. Derrière ce web des données, je vous l'ai dit, il permet aux machines d'interagir entre elles. Et l'objectif des informaticiens derrière, c'est de créer des inférences, de fouiller dans ces graphes de données. Mais là, on est pour l'instant, on est en tout cas pas dans la science-fiction, mais dans la recherche en intelligence artificielle qui consiste à justement travailler sur la fouille des graphes de données les inférences possibles à partir de ces graphes de données. Donc, je dis notre ambition, elle est de contribuer à alimenter ça. Ça ne veut pas dire qu'on verra Maza un jour dans ce graphe-là. Mais par exemple, si par contre on est une petite goutte d'eau qui permet d'enrichir le champ des données patrimoniales là-dedans, eh bien on aura atteint une partie de nos objectifs. Alors pour cela, j'en reviens maintenant un peu au consortium. On a créé, on a un peu consolidé notre affaire, et puis on s'est dit, il faut quand même qu'on sache un peu ce que l'on fait entre nous, partenaires, et à quoi on s'engage justement. On se fixe des ambitions, on se fixe des objectifs, mais à quoi on s'engage? Donc on est tombé d'accord sur une charte assez simple, qui est de dire, on va respecter les principes FAIR, on va respecter les conditions d'association de projet sur lesquelles je vais vous présenter juste ensuite, et puis que chacun des partenaires s'engage dans les deux ans à avoir au moins un jeu de données. Alors on parle de données FAIRisées quand elles respectent les données, euh, les principes faire, ça c'est le vocabulaire, la novlangue qui arrive à chaque fois qu'il y a une nouvelle idée. Donc du coup, on est allé jusqu'au bout et on s'engage à avoir des données mazaïsées dans cette logique-là. Mais en fait, c'est la même chose, c'était simplement pour le clin d'œil. Les associations de projets, c'est-à-dire qu'autour de ces partenaires, qui sont des partenaires, vous l'avez vu, institutionnels, qui constituent un noyau dur, qui a l'habitude de travailler ensemble et qui a permis le développement et la consolidation de ces outils et de ces pratiques, puisqu'on veut ouvrir largement à l'ensemble de la communauté, il faut qu'on puisse associer, non pas forcément de manière institutionnelle, mais tout type de projet qui voudrait entrer dans cette dynamique. Et donc l'objectif de l'échange, en particulier aujourd'hui, est vraiment d'aller dans ce sens-là. Et donc pour faire ça, par projet... les prérequis, j'insiste depuis tout à l'heure, c'est d'avoir des données accessibles en ligne. À partir de là, donc sans mot de passe, vraiment accessibles, ouvertes sur le web. À partir de là, nous, on va pouvoir travailler à l'accompagnement en fait, de ces projets. On n'a pas les forces vives dans Maza pour prendre des données de n'importe quel partenaire qui arriverait et puis dire on va vous les porter sur le web sémantique. Mais on peut vous accompagner dans ce sens-là. Alors ça passe par les bonnes pratiques, mais ça passe aussi par l'expertise, l'évaluation du degré de férisation de vos données et juste ce qu'il y a à faire, ce qu'il reste à faire, etc. Et donc l'enjeu, c'est bien de diffuser l'ensemble de ces données, de les partager, de les rendre interopérables, mais aussi de les rendre visibles et de les diffuser à une échelle internationale. Pour cela, ce processus d'association, il va passer par différentes étapes. Une demande initiale, cette tâche d'expertise, donc d'évaluation, sachant qu'on réfléchit on est capable de le faire pour l'instant de manière... informel, mais on réfléchit aussi à l'utilisation des outils d'évaluation de l'état de férisation des jeux de données qui existent et qui se développent. La réalisation donc du projet lui-même cette fameuse évaluation du respect des principes FAIR. Les critères d'association, c'est qu'on ait des données archivées et versées dans une plateforme, alors on a mis en exemple Cines, mais ça peut en être une autre, mais qu'on ait bien des données archivées, que les données soient, ça c'est l'objectif, pour aller au bout, ça ne veut pas dire qu'on arrive avec un projet qui respecte tout ça, c'est ce vers quoi on va tendre et vers quoi l'accompagnement de Maza peut amener. Des données accessibles par des URI individuelles, donc des identifiants pérennes, uniques et pérennes, des métadonnées descriptives riches et accessibles, même si le jeu de données disparaît à un moment donné pour X raisons, les métadonnées doivent rester visibles et accessibles. Définir les licences d'utilisation, d'accès pour la réutilisation. Les identifiants pérennes, j'en ai parlé, je ne sais pas pourquoi on les retrouve ici. L'alignement avec des vocabulaires standards. Alors j'ai cité les pactoles, évidemment, mais ça peut être d'autres types de vocabulaire, comme le AAT. D'ailleurs, ce n'est pas ATT, mais AAT, du Getty, qui est le vocabulaire international qui fait référence, en fait, dans le domaine des données patrimoniales et avec lequel, maintenant, les pactoles sont alignés, GeoName, les VIAF, etc. Et puis, l'intégration d'une plateforme Sparkle, type OpenArchaeo, ou d'une autre plateforme Sparkle qui permettent de retrouver et d'interroger ces données. Donc, ça, ce sont les critères d'association et ce vers quoi Maza peut globalement accompagner les projets issus de la communauté archéologique française. Pour cela, on a aussi mis en place une offre de formation. Donc ça, il en sera à nouveau question cet après-midi, donc je ne vais pas la détailler. Mais vous voyez ici, vous la retrouverez sur le carnet hypothèse Maza, cette offre de formation permet de répondre à un certain nombre de points que j'ai évoqués autour des outils de l'écosystème, et cette offre de formation, elle est complètement ouverte et offerte au sens propre, c'est-à-dire que on peut être amené, comme demain par exemple, à organiser des formations et à les ouvrir, à les ouvrir aux inscriptions et à les proposer, donc là, elles sont ouvertes à tout le monde. Mais on peut aussi, selon les cas de figure, la disponibilité de tout le monde et les moyens que ça engage, répondre à un groupe constitué, par exemple, qui souhaiterait avoir une formation sur tel ou tel aspect de cette offre globale. Et dans ces cas-là, échanger avec le groupe en question quelle que soit sa constitution, pour voir si on peut faire une formation, déployer une de ces formations de manière ad hoc pour un groupe constitué. Alors, dans la formation, et certains d'entre vous le testeront demain, il y a une formation importante qui est celle de l'approche et de l'apprentissage du CIDOC CRM, cette fameuse ontologie de domaine. Et là, alors, j'ai le plaisir de vous montrer la première image publique du prototype du CIDOC CRM Game, donc au format non plus papier, mais numérique. Donc sur lequel ont travaillé Georges Bonsecker, Anaïs Guidem, qui sont les deux créateurs, fondateurs de ce jeu de cartes au départ pour apprendre le CIDOC, et puis Olivier Marlet, ici présent, qui ont travaillé à la transformation de ce jeu de cartes papier que certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de manipuler avec des exemples, en une version numérique, donc qui sera utilisée dans l'atelier demain. Mais qui sera ensuite mise à disposition, chargeable. J'ai vu que le développeur l'appelait encore version alpha, même pas bêta, donc on n'est pas encore tout à fait opérationnel, mais ça permet quand même de la tester. Et donc bientôt disponible, non pas sur vos écrans, mais presque, en tout cas via le carnet MASA. Et donc justement, pour la diffusion, ce carnet hypothèse, les journées comme on en fait aujourd'hui, et puis le type, c'est les moyens qu'on se donne. Mais ce que j'ai renoté ici, que vous avez peut-être vu passer une phrase que vous avez peut-être vu passer tout à l'heure, c'est que MASA a pour vocation, au service de la communauté, d'être un vecteur de diffusion des principes verts dans la communauté archéologique française. Et ça, c'est un élément important, parce qu'en fait, c'est vraiment à ça que doit servir le consortium. On ne travaille pas entre nous, pour nous et pour se faire plaisir, même si on s'amuse bien par moments, heureusement, mais on travaille vraiment au service de la communauté. Ça va se traduire également par la production de ce qu'on appelle un livre blanc. En fait, ça sera l'aboutissement. Donc là, on aura une première version d'ici la fin de l'année. Donc une espèce de guide de bonne pratique, de cumul de guides de bonne pratique qui reprend le cycle de l'écosystème. Donc le cycle de vie des données, fondé sur le cycle de vie des données et les principes FAIR. Il va être en format TEI sur la plateforme OpenGuide, évidemment. Je vous passe les détails, il sera traduit en anglais également. Mais en gros, l'entrée dans ce guide de bonne pratique, dans ce livre blanc, sera celui de l'écosystème, le cycle de vie des données et les principes FAIR au centre. Ce que l'on fait là pour la communauté archéologique française, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est aussi de faire la relation avec la communauté internationale. Donc ça passe par plusieurs biais. C'est placé en 2020 par l'organisation d'un colloque international Fair Heritage. Et vous voyez à son nom que c'était bien les principes FAIR, mais pour le patrimoine et d'ailleurs même pour les patrimoines, puisqu'on collaborait avec d'autres collègues dans l'organisation qui allaient même au-delà du patrimoine culturel. Mais il s'agit bien de mettre au cœur les principes FAIR toujours et ces questions de données patrimoniales. Ce colloque, à partir de MASA, avec les connexions que je vous ai montrées tout à l'heure, avec Humanum et le réseau des MSH, nous amène, Nicolas va en parler tout à l'heure à propos d'Humanum, à une interface avec les communautés internationales qui peuvent être... Alors, on a tous des collaborations internationales en recherche, c'est pas l'objet, là. Mais ça nous amène à une connexion avec des réseaux internationaux qui travaillent dans le même sens à une échelle différente. En particulier, alors ça a été vrai, je vous ai parlé de la traduction du guide de bonne pratique, c'était un des livrables d'un projet qui s'appelait Parthenos, qui était un projet européen. Ça nous amène dans un réseau d'archéologues qui s'appelle CEADA, qui est un réseau COST qui existe, qui est actif en ce moment. Un projet européen Ariane Plus, dans lequel l'INRAP est également investi et qui, en fait, est plus qu'un projet de recherche, un projet d'infrastructure et qui développe une infrastructure au service d'une communauté archéologique internationale pour permettre de mettre en visibilité des jeux de données, de les partager. Et ce que fait MASA, et c'est là où on peut vous accompagner, c'est que lorsque l'on a porté des jeux de données jusqu'à leur visibilité dans la plateforme OpenArchéo, qui est celle que l'on a développée à une granularité assez spécifique, Eh bien, on a maintenant un processus, c'est ce sur quoi Florian travaille en particulier, un processus qui va permettre de verser ces jeux de données à l'échelle de leur repérage dans l'infrastructure Ariane Plus, qui n'est pas exactement la même, mais qui va permettre de ne pas refaire le travail, en fait, une fois que les jeux de données sont dans OpenRKO, de pouvoir les verser pour leur affichage dans la plateforme Ariane Plus. Donc ça, c'est un gage de visibilité et de repérage de nos jeux de données de la communauté française dans ces communautés internationales qui est essentiel. Et puis ça nous a amené aussi à contribuer encore un peu plus largement, via Ariane, puis largement, à un projet qui s'appelle 4CH. Et ce projet 4CH, en fait, c'est donc c'est pas non plus directement un projet de recherche, mais c'est un projet qui, en 3 ans, a pour objectif de préfigurer ce que pourrait être un centre de compétences sur la conservation du patrimoine culturel. Alors, là, on voit bien qu'on change d'échelle. On change d'échelle dans la formule, mais également dans l'objet, où il ne s'agit plus de données archéologiques, comme dans Ariane, mais de patrimoine culturel plus largement. Donc ça ouvre en tout cas des pistes et des collaborations qui permettent de mettre en visibilité le travail de la communauté archéologique française, le travail qui est fait dans MASA et les outils qui, pour certains, sont réutilisés internationaux. C'est le cas d'un certain nombre d'outils. Nous, on bénéficie de ce que la communauté internationale développe et on peut l'utiliser. Et puis surtout, de se confronter et d'être sûr qu'on utilise bien les mêmes référentiels, les mêmes standards et qu'on est bien dans la bonne voie. Et puis, des connexions essentiellement via Humanum avec des infrastructures internationales sur lesquelles je ne m'étends pas. J'ai cité Daria et Ospilar, RDA, parce que je pense que Nicolas va en parler. Très rapidement, pour terminer... Je vous ai dit, on a eu 4 ans, puis 4 ans, puis on est à la 9e année entre 2021 et 2022. Et au-delà, qu'est-ce que l'on va faire de tout ça? Eh bien, quelques perspectives. Les points que vous voyez sont les objectifs que l'on s'est fixés dans ce développement maintenant. La diffusion des principes FAIR dans la communauté archéologique, alors offre de formation, mobilisation de la communauté archéologique, c'est ce qu'on fait, je ne détaille pas, les bonnes pratiques avec le livre blanc, l'interaction au-delà de l'archéologie, je viens de l'évoquer, j'en ai parlé au tout début en vous disant qu'il y avait des relations entre les différents consortiums du Manum, qu'il y avait des interactions avec des projets tels que le chantier Notre-Dame, qu'il y en a également via le composant Spar Natural que j'ai présenté avec la BNF, mais aussi avec les archives nationales. Donc là, on sort du champ de l'archéologie, comme on en sort quand on parle avec le projet 4CH de patrimoine culturel. Les archives et la bibliothèque nationale, on est bien toujours dans du patrimoine culturel, mais on change aussi de thématique. Et eux sont intéressés directement par ce composant Spar Natural, pour les mêmes raisons, et qui utilisent des ontologies de la même manière. Pour la BNF, le CIDOC-CRM, pour les archives nationales, une ontologie dont j'oublie tout le temps le nom, mais qui est en cours de création et qui le prévoit comme un module qui serait rattachable au CIDOC, justement. Donc on va dans la même direction. Et ça, c'est plutôt bon signe et encourageant. Des partenariats, je vous ai présenté autour des partenariats les questions de chartes et de prérequis, d'accompagnement de projets, avec ces associations de projets. Et puis une question qui se pose, il y a vraiment un point d'interrogation, c'est, on le dit, on commence à avoir des outils pour attester que ces données puissent être reconnues FAIR, donc qu'elles puissent être des outils d'évaluation de l'état de fairisation de ces données. Est-ce qu'il faut aller, et à ce moment-là, ça pose d'autres types de questions qui ne relèvent pas nécessairement du consortium, mais comment on peut, à un moment ou à un autre, certifier que nos données, quand on va les verser dans des plateformes internationales, eh bien, elles sont bien FAIR? Donc ça, c'est une question qui est ouverte, qu'il faut qu'on discute avec les infrastructures, avec Humanum, avec d'autres. Mais cette question de la certification des données, à un moment ou à un autre, elle est plus que légitime, parce que ce n'est pas juste de mettre un label dessus, c'est de dire, les données qu'on a produites, elles sont faites jusqu'au bout, elles sont certifiées de cette manière-là, et c'est un gage de qualité, et c'est un gage aussi d'aboutissement des travaux de recherche que l'on a conduits. Donc de livrer des données sous cette forme-là, au même titre, quand on fait une publication scientifique, l'évaluation par les pairs est le gage de la reconnaissance du travail scientifique qui est effectué. Sur les données, il va bien falloir qu'on se pose la question de la certification sous une forme ou sous une autre. L'interdisciplinarité, vers le patrimoine culturel, je l'ai évoqué, et également vers l'intelligence artificielle, j'en ai parlé aussi, avec ces questions de fouille des données, d'élargissement, où là, on travaille avec des informaticiens qui sont intéressés par nos jeux de données et par la manière dont on aborde ces questions. Donc, en recherche, ça pose des questions de recherche, justement, sur le web sémantique, sur la fouille de données, sur la question de la réutilisation, parce que la réutilisation des données, on l'évoque, on voit bien comment on peut réutiliser des données en archéologie, puisque de toute façon, numérique ou pas, on fait ça depuis toujours. Quand on travaille en archéologie, on réutilise toujours les données antérieures. Mais là, on parle de réutilisation là aussi à d'autres échelles. À partir du moment où on met à disposition des jeux de données en ligne, ils peuvent être utilisés par n'importe qui, en dehors de la communauté archéologique, pour d'autres usages, et ça, il faut que l'on voit effectivement les questions de licence, mais aussi les pratiques qui peuvent se développer à partir de là. Et puis l'international, donc j'ai parlé des plateformes européennes, mais c'est aussi tout le volet de l'archéologie française à l'étranger, donc via le réseau des écoles françaises à l'étranger, qui est partenaire, je l'ai oublié tout à l'heure dans les partenaires, Bruno, tu m'excuseras, quand j'ai fait la... je te vois et j'ai oublié, donc qui est représenté par Bruno Merandière aujourd'hui, le réseau des écoles françaises à l'étranger, qui est partenaire du consortium. Et puis, on a le plaisir aussi d'accueillir quelqu'un de l'EFEO aujourd'hui, donc je suis ravi que, évidemment, un des grands volets, c'est les UMIFRE et l'archéologie française à l'étranger, via le ministère des Affaires étrangères aussi, et un des interlocuteurs. Voilà, donc, moi, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Cette journée, après cette présentation du consortium, va se poursuivre avec une présentation de Nicolas Larousse du Manum, sur les communautés de recherche du Manum. Voilà, pas de l'ensemble du Manum, mais vraiment sur les communautés de recherche, et c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui. On aura un temps pendant lequel on pourra continuer à échanger pendant le déjeuner, entre midi et 2h, sur le site ici. Et puis cet après-midi, on reviendra avec une table ronde, je crois pas que j'ai mis... Non, voilà. Avec une table ronde, justement, pour les enjeux sur les enjeux pour la communauté archéologique, et où là, on a vraiment besoin, cet effort, on le fait avec une idée avec notre propre bon sens et ce qu'il nous semble être correct et notre expérience, mais on a besoin de votre retour, de savoir quels sont vos besoins, de savoir quelles sont vos attentes, et est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent complètement surréalistes et où on n'est pas dans la bonne voie, on a besoin de cet échange-là, on a besoin de... Alors on sait sur les standards qu'on est plutôt dans la bonne voie d'un point de vue technique et normes, etc., mais est-ce que c'est applicable, jusqu'où, dans la communauté, comment il faut faire, on a besoin de cet échange-là avec vous. Je vous remercie.